Juste pour que tout le monde sache, donc c'est la deuxième fois que nous faisons appel à Monsieur Bourdin pour animer une réunion d'information sur le thème des communautés de gens du voyage. Donc là, on est très content de l'accueillir même en visio pour cette réunion sur le thème de la scolarité et de l'accès au savoir. Monsieur Bourdin n'a pas fait de tour d'écran, mais juste pour que vous ayez une petite idée de qui on a à cette réunion. Donc, il y a parmi nous des professeurs de l'usine à chapeaux. Vous avez des professeurs de l'éducation nationale, des bénévoles qui interviennent avec nous sur les airs lors des ateliers jeux. Donc, c'est quand même a priori des personnes qui, je pense, sont concernées par cette thématique de l'éducation.
D'accord.
Peut-être que je précise qu'on est trois aussi de la
Oui, pardon, je t'ai oublié, Anaïs. Excuse-moi.
FEV.
Et interviennent également sur les airs de Rambouillet et des Essarts-le-Roi, la FEV. En fait,
Tout
on
à
est.
fait.
Voilà. Peut-être, Alexandre, rappeler, mais très rapidement aussi, au niveau de l'usine à chapeaux, donc on est en train d'amorcer une démarche d'EVS, c'est-à-dire d'espace de vie sociale. C'est-à-dire pour travailler sur les aires d'accueil d'une manière un peu plus générale et de définir ensemble des axes de travail. Enfin, voilà. Ça va démarrer en décembre avec tout un travail de diagnostic à faire sur le premier trimestre, semestre 2021. Et notamment la question de la scolarisation ou en tous les cas de l'accès aux apprentissages, au savoir. On ne sait pas si ça passe par la scolarisation, mais en tous les cas, l'accès au savoir, on va dire, est un des axes qu'on a envie de travailler, enfin voilà, sur lesquels on a relevé quand même des difficultés sur les deux aires sur lesquelles on intervient avec la FEV et avec la GDVY. Voilà, d'où l'idée aussi de pouvoir travailler un peu sur un socle commun et de nos sollicitations auprès de la GDVY pour nous faire part un peu de leur lecture, leur travail de recherche sur cette question du rapport à l'école et du rapport au savoir sur la communauté des gens du voyage. Voilà un petit peu juste pour contextualiser cette rencontre ce soir.
Alors, merci. On s'était proposé juste que chacun puisse s'exprimer quand même par quelques mots, dire quelle est un peu son implication, son rapport avec les gens de voyage, voilà, que chacun puisse dire ça pendant quelques mots, histoire qu'on entende que chacun puisse dire aussi. Peut-être quelques questions aussi, éventuellement quelques premières questions sur lesquelles on pourrait revenir. On avait pensé, parce qu'on a préparé ça quand même, en gros, une moitié, c'est-à-dire, je pensais parler à peu près 3 quarts d'heure, donc 3 quarts d'heure jusqu'à à peu près 19 h, présenté, ce qui n'empêche pas qu'on puisse poser des questions même pendant la présentation. Il y aura des
Bien
transparents
sûr.
qui vont être présentés, Alexandre a dû recevoir, non?
Oui, je les ai.
Oui, donc on présentera ça. Je les enverrai et puis je crois que j'ai oublié d'envoyer le document qu'on enverra à tout le monde, mais que vous devez avoir d'ailleurs. Enfin, Alexandre, vous devez l'avoir, Claire aussi, parce qu'il avait été distribué. Mais donc on pourra le distribuer. Bon, l'idée, vous aurez tout. Donc vous pouvez prendre des notes, c'est comme vous voulez, parce que ça peut soutenir votre attention. Mais vous n'avez pas vraiment besoin de prendre des notes. Enfin, je crois. Voilà, si vous voulez. Parce que les notes, elles sont déjà prises, je les ai prises pour vous éviter tout travail. Donc vous pouvez vous reposer pendant que je parle, mais pas pendant que vous poserez des questions. Parce que à partir de 19 h, voilà, ce sera des questions. Donc voilà, ça vous va? Alors ben, on va y aller. Je regarde un petit peu l'heure pour ne pas nous laisser embarquer dans des mauvaises horaires. Alors, la dernière fois, j'étais parti vraiment beaucoup sur la culture des gens de voyage. On avait beaucoup discuté. Là, on est parti plus sur le thème scolarisation. Hein? C'est ça, je ne me trompe pas, Alexandre. C'est
C'est
bon?
ça, tout à fait.
On a dit qu'on partait vraiment sur ce plan-là. Alors, on a fait donc, nous, nous, association de gens de voyage, on a fait une présentation à la direction de la cohésion sociale quand on leur a proposé de travailler sur la question de la scolarisation, de la formation professionnelle et puis de l'habitat. Donc, on a fait une présentation qui était devant le grand groupe, enfin le grand groupe de travail que la DDCS a organisé, donc la direction de la cohésion sociale de la préfecture. Et ce que je vais vous dire, c'est issu de cette première présentation, puis je l'ai adapté pour la simplifier, puis pour l'adapter à notre réunion d'aujourd'hui. On va parler de scolarisation essentiellement, illettrisme aussi, vie professionnelle, on va l'évoquer très rapidement parce que derrière la scolarisation, on pense bien sûr à la vie professionnelle. Et puis derrière, on évoquera la question de l'habitat parce que c'est important. Alors, avant, il va y avoir un blabla politique. Alors, pas politique politicienne. Donc, ça vous va comme programme là déjà ? De toute façon, c'est celui-là qu'on fait ce soir. Alors, mais je pense que c'est intéressant. Voilà, on peut passer le transparent, le premier, Alexandre. Alors, comment est-ce qu'on fait ?
Là, c'est bon.
La page suivante.
Là, vous ne voyez pas la page ?
Si, c'est bon.
Ah, ok.
C'est bon. Voilà, donc ça, c'est une question politique. En fait, c'est notre motivation. On ne va pas y passer trop de temps, mais c'est pour bien montrer comment nous, association de voyage, on voit les choses. Et donc, on parle en même temps, on va aborder quand même une grande question, une grande problématique des gens de voyage, qui est entre l'habitat et puis justement tout ce qui est la culture de l'apprentissage. Enfin, la culture de l'apprentissage. La première chose, c'est que ce qu'on constate, c'est que sur le champ de l'habitat, il y a des décisions qui ont été prises qui fonctionnent pas du tout. Tout à l'heure, on a dit qu'il y avait plusieurs lieux possibles d'habitat. On y reviendra tout à l'heure. Un des lieux principaux, qui est un lieu emblématique, c'est pas là où il y a le plus de monde, de gens de voyage, mais c'est le lieu de référence, c'est l'aire d'accueil du gens de voyage. Cette aire d'accueil du gens de voyage, elle est pas gratuite. Les gens qui y vont dessus n'y vont pas, doivent payer, hein. Ils doivent payer le coût de la place, ils doivent payer l'électricité, l'eau, ils doivent payer aussi le gaz parce qu'on chauffe la cuisine au gaz, on chauffe les caravanes au gaz, et ils doivent payer aussi l'amortissement de la caravane. Et s'ils étaient des gadgets comme nous, des gadgets, c'est ceux qui sont pas de la communauté des voyageurs, pas des gitans ou des tziganes. Donc, s'ils étaient des gadgets, nous, on habite dans des appartements qui sont bien mieux isolés. Voilà. Et on dépense moins d'argent qu'eux en électricité. On dépense moins d'argent qu'eux en amortissement de caravane, parce que quand on loue un appartement, on ne nous demande pas en plus de payer l'amortissement de l'immeuble. Et en plus, on a le droit, avec la rémunération qu'ils ont, à l'APL, ce qu'ils n'ont pas le droit. Donc, en fait, quand on habite une aire d'accueil des gens de voyage, en fait, on dépense beaucoup plus d'argent que quand on habite un appartement. Et ça, on ne le sait pas bien. Mais quand ceux qui gèrent les aires d'accueil des gens de voyage, qui sont les communautés de communes, les communautés d'agglomération, donc ce n'est pas la commune même, c'est au-dessus de la commune. Hein. Voilà, souvent, les coûts en Yvelines, en tout cas, sont assez chers. Et quand c'est cher, eh bien, en fait, on ponctionne leur reste à vivre. Donc, ils ont un reste à vivre qui est modeste, qui est petit, évidemment, et qui quelquefois ne leur permet pas vraiment de vivre, alors que s'ils étaient dehors, en dehors de l'aire d'accueil, sur un endroit gratuit, eh bien, ils auraient plus d'argent. Donc, ça, c'est un premier problème, c'est que ça les met en situation difficile. Deuxième chose, c'est qu'on les met, discrimination territoriale, les aires d'accueil sont souvent dans des endroits loin de tout. Voilà, c'est jamais en centre-ville. Troisième chose, c'est qu'il y a une offre d'habitat qui est insuffisante en Yvelines. Et donc, les gens, alors, sur l'aire d'accueil, premièrement, on leur dit, non seulement c'est un peu cher, mais en plus, on leur dit, vous ne devez pas y rester trop longtemps. Sauf exception, quand on a des enfants scolarisés, on peut y rester un peu longtemps. Mais sinon, on leur demande, puisque c'est pour les voyageurs, vous êtes voyageurs, donc partez. Et comme il n'y a pas de quoi, en fait, héberger les gens à un coût raisonnable, donc, ils se posent un peu n'importe où, et de là, ils sont chassés, parce qu'il y a une espèce de jeu de chat et la souris, où ils sont chassés de lieu en lieu. Et donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais il y a une, au total une instabilité de l'habitat. Et qui dit instabilité de l'habitat dit grande difficulté à aller vers l'école et grande difficulté à se former en tant qu'adulte. Tant qu'il n'y a pas de stabilité de l'habitat, tant qu'ils sont angoissés pour savoir où est-ce qu'ils vont, ils vont habiter la semaine prochaine, et ben, les enfants ne sont pas assez scolarisés à l'école. Les collégiens ne vont pas au collège parce qu'ils ne sont pas très motivés. En plus, il faudrait qu'ils changent toujours de collège, il faudrait qu'ils changent toujours d'amis pour aller au collège. Et puis, voilà, donc ils n'y vont pas. Donc, finalement, ils prennent le CNED, l'enseignement à distance. Et puis, de là, ils décrochent du CNED. Et puis, donc, ça fait un peu les catastrophes qu'on peut prévoir, quoi. Même chose pour les hommes. Les hommes ont une faible compétence professionnelle. On l'évoquera tout à l'heure, mais très rapidement. Et puis, les femmes ont souvent pas beaucoup de compétences professionnelles, même s'il y en a qui travaillent. On verra peut-être tout à l'heure le travail qu'elles font. Mais voilà, en tout cas, ils ne peuvent pas se former. Et donc, s'ils ne peuvent pas se former, ils ne peuvent pas vraiment gagner de l'argent, quoi. Voilà, donc c'est toute une problématique. Donc, si l'habitat n'est pas stable, derrière, on ne peut pas se former et les enfants ne peuvent pas aller à l'école de façon très propre. Donc, c'est une grande difficulté parce que tout ça, ça conduit à l'appauvrissement des familles. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est, première chose, améliorer la stabilité de l'habitat. Et donc, on œuvre avec nos petits muscles, hein, bon, pour développer ça, pour développer l'habitat. Il y a un habitat stable et puis qu'on fasse attention et qu'on ne brusque pas les gens en leur disant, bah, de toute façon, hop, vous devez partir demain parce que voilà. Voilà, tout ça, ce sont des familles, ce sont des personnes, des sentiments, des gens comme nous. Voilà, donc ça, c'est un gros défaut de la société qu'on veut éviter. Et puis, quand l'habitat sera réglé, on pourra fonctionner sur l'école et la formation professionnelle de façon mieux. Alors évidemment, on ne va pas attendre que l'habitat soit réglé avant de faire l'école et la formation professionnelle. Mais voilà, c'est le panorama global de notre réflexion. Voilà. Je passe parce que vous allez le comprendre. De toute façon, tout ça, c'est noté, donc vous allez voir tout. Voilà. Alors, donc, on va avancer un peu plus maintenant sur la scolarisation. Alexandre ?
Ça devrait être bon, là.
Voilà, c'est bon. C'est parfait. Alors, on va partir de ce qu'on observe en Yvelines. Alors, peut-être qu'il y a une moyenne de scolarisation en Yvelines. Nous, on ne la connaît pas bien, mais il y a des situations qui sont très diverses, en fait. Toutes les Yvelines et tout le monde ne fonctionnent pas de la même façon. Alors, je vais reprendre, ça, c'est ce qu'on a exposé à la DDCS, et on s'est appuyé sur un rapport de stage qui avait été fait par une personne qui faisait qui a fait un mémoire pour la DDCS et qui a eu le temps de faire une analyse un peu approfondie. Donc on a repris ces chiffres et puis on est allé un petit peu plus loin sur la réflexion. Alors voilà, l'observation, c'est des taux de scolarisation en alerte. Alors tout à l'heure, Ronald Duarte l'a dit, en fait il l'a dit ou il l'a sous-entendu, il n'y a pas grand monde qui vient. En fait, il y a les effectifs scolarisés qui sont peu précis d'une façon générale. Alors, on le sait sur les aires d'accueil, par exemple, des gens du voyage. On le sait à peu près. Qui va à l'école? En tout cas, on connaît les enfants qui sont là. Mais est-ce qu'ils sont inscrits à l'école? Bon, on le perçoit plus ou moins. Est-ce qu'ils y vont? C'est encore une autre chose. Et est-ce qu'ils profitent de l'école? C'en est une troisième. Donc, il y a vraiment entre l'école, l'assiduité, en fait, on s'aperçoit qu'on est vraiment en difficulté. Le taux de scolarisation, ce n'est pas un chiffre que j'avance moi, il est insignifiant, c'est-à-dire c'est moins de 1%, en tout cas c'était moins de 1% il y a un an ou un an et demi, il y a peut-être deux ans, enfin un an et demi je crois. C'était à peu près 1,5% d'après ce que j'ai relevé moi dans les chiffres qu'on m'a donnés. Voilà, contre une scolarisation quasiment complète en France. Enfin, en France et dans le reste de la France. On l'évoque, la rupture de scolarisation en fin de CM2. Les familles sont quand même plutôt enclines à scolariser leurs enfants, même si de temps en temps, bon, voilà, c'est, la motivation est moyenne. Et on y reviendra sur la motivation tout à l'heure. Mais par contre, à partir du collège, là, c'est rare. Alors, ce n'est pas toujours vrai parce que je pense que sur les aires, en tout cas sur les essarts, j'en sais rien, sur l'aire de Rambouillet, je pense qu'il n'y a personne au collège. Je pense que les essarts, c'est pareil. Mais en revanche, sur le lieu dit illicite, mais qui n'est quand même pas si illicite que ça, parce que les gens y sont depuis trois générations. Donc, en fait, c'est complètement toléré. C'est la gommerie, notamment la gommerie. Et puis, il y a une autre vers les étangs, si vous connaissez, la route des étangs. Il y a des enfants qui vont... Alors, route des étangs, ils sont trop petits pour aller au collège, mais en tout cas, à la gommerie, il y a des enfants qui vont au collège. Et même au lycée, d'ailleurs. C'est parmi les premiers enfants que j'ai connus qui allaient au lycée, c'était là-bas. Lycée professionnel, certes. Et d'ailleurs, ça n'a pas été couronné de succès complètement. Mais en tout cas, ils l'ont fait. Et ça, ça a été favorisé nettement, à mon avis, par la stabilité de l'habitat. Parce que même s'ils sont sur des sites illicites, ils sont quand même sur des sites stables, parce que ça existe. L'un va avec l'autre quelquefois. Et donc ça, ça a favorisé la présence au collège. Taux de scolarisation, donc là j'ai mis simplement Rambouillet à les Essarts parce que c'est, voilà, nous on s'intéresse qu'à ça, les autres on s'en fout. À Rambouillet, donc ce qui était dit, alors c'est octobre-novembre 2019, mais c'est peut-être un peu avant. Je me suis demandé si je n'avais pas confondu d'une année, mais je crois que c'est ça. Hein. Seulement la moitié des 11 enfants, c'est la bonne année, pardon. Seulement la moitié des 11 enfants semblent inscrits à l'école. Et sur les Essarts, il y avait 5 enfants scolarisés sur les 9 enfants de l'air, et les collégiens étaient non scolarisés. Voilà, donc c'est quand même, ça pose beaucoup de questions, quoi. Sur la fréquentation sur 4 aires, alors ça revient sur les chiffres qui ont été faits par la personne qui avait fait un mémoire. Donc on voit que 600 ans, 11, 16 ans, donc plutôt collège et école. Donc, il y en a au CNED, il n'y en a pas de scolarité, pas d'infos. Enfin, voilà, c'est quand même pas excessivement glorieux. Même si on en voit qu'il y en a 18 sur 42 au total qui sont en établissement scolaire, à part le CNED. Hein. Il y en a 18 sur 42. Bon, donc c'est quand même une petite moitié. Mais quel est leur niveau? En plus, on ne sait pas. Quelle est leur assiduité? On ne sait pas. Parce qu'on ne voit pas ici, il n'y a pas eu d'études particulières, mais on voit bien, sur la motivation. Non, je reviendrai sur la motivation tout à l'heure, je ne vais pas le faire maintenant. Voilà, dans l'observation. Alors, le taux de scolarisation maternelle, je l'ai écrit deux fois, comme ça, vous l'avez deux fois. Voilà, ça c'est l'observation. Donc, c'est pas enthousiasmant, quoi. On peut passer ?
Alors, je crois qu'il y a Monsieur Dillard qui voulait dire quelque chose.
Oui, bon, tu peux m'appeler Ronald, ça me fait un peu peur, Monsieur Dillard. Okay. Oui, moi, je voulais juste intervenir. Alors, il y a deux choses. Il y a l'inscription.
On va revenir sur le transparent d'avant, alors. Pardon.
Ouais, sur le fait d'être inscrit à l'école, comme tu disais, Étienne, il y a être inscrit et venir. Parce que là, moi, officiellement, j'ai 7 enfants inscrits à l'école de la Louvière, mais je ne les ai jamais vus. Mais d'un point de vue, d'un point de vue administratif, ils existent et ils sont scolarisés avec un taux de présence qui est de 0%. Donc ça, c'est la première chose. Et le deuxième, au niveau du taux de scolarisation en maternelle, depuis l'année dernière, ils ont rendu l'école obligatoire à partir de 3 ans. Et je pense que ça va mettre très longtemps à rentrer dans les... pour les enfants du voyage parce que habituellement c'était 6 ans et maintenant que c'est devenu 3 ans, je pense pas que ça leur change grand chose et qu'ils scolarisent leurs enfants, en fait. Mais c'est aussi pour ça qu'ils étaient pas loin des 0% parce qu'il y avait pas d'obligation, et là maintenant qu'il y a une obligation, je sais pas si ça va changer quelque chose parce que je suis pas sûr qu'ils soient friands de ça, mais en tout cas, c'était juste pour préciser. Il y a le nombre d'enfants inscrits, mais en effet, ça ne reflète pas forcément le niveau et leur réelle scolarisation. Et ça, c'est ce que tu précises.
Oui, oui. Merci. Alexandre, on peut passer. Alors, en fait, là, on va rentrer sur une autre question qui est… ça passe, non ? Ça passe pas ? Ah ben voilà, c'est bon. C'est qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a une aussi faible scolarisation ? Alors, là, ça vient pas de moi tout ça, parce que quand on a voulu présenter ce dossier-là à la direction de la cohésion sociale, mais seulement il ne fallait pas rigoler sur ce thème-là. Hein. Donc, en fait, on a beaucoup travaillé. On a vraiment beaucoup travaillé le sujet pour leur présenter quelque chose de bien constitué. Et puis, on s'est beaucoup basé sur un document, une étude. Alors, ce n'est même pas une étude tellement opérationnelle, c'est une étude savante. Qui s'appelle Étude Tsigane, peut-être que certains le connaissent, voilà, qui sortent des documents sur thématiques, dans des livres. Alors, moi, je l'ai acheté sur, ça s'appelle Scolarisation des enfants du voyage. Je trouvais que c'était un bon titre, donc je l'ai acheté, je l'ai reçu, et puis je l'ai mis de côté parce que c'était complètement imbitable, c'était du langage des scientifiques, de sociologues, et moi, je ne suis pas du tout habitué à ça, d'anthropologues, voilà. Et puis à un moment, je me suis dit, mais enfin, c'est quand même trop bête, il y a peut-être quand même quelque chose à prendre là-dedans. Je m'y suis replongé et je me suis délecté de la lecture. Voilà. En fait, quand on s'y plonge, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, j'ai appris beaucoup et je conseille à tout le monde de le lire. Mais comme c'est vraiment très, très compliqué à lire, j'ai passé quand même vraiment beaucoup de temps. Dans le document que vous pourrez recevoir, je vous ai fait des morceaux choisis pour vous éviter une lecture et puis comme ça vous serez heureux de lire des petits condensés avec des petits titres qui vous intéresseront. Donc je vous les enverrai, enfin après la réunion on vous les enverra, ça sert à rien de le lire avant hein. Mais c'est quand même assez intéressant. Je sais pas, Alexandre, t'as pu le lire finalement? Oui, bon, on t'entend pas mais je pense que c'est oui.
Pardon, oui, j'avais coupé mon micro. Effectivement, j'ai lu les extraits qui étaient dans les documents que vous m'aviez donnés et c'est dense, mais c'est intéressant. Mais c'est dense.
Ah oui, c'est dense. Oui, c'est dense parce qu'on n'est pas habitué à ce jargon-là. Hein. Mais c'est très dense, mais j'ai pris le plus léger de ce qu'il y avait dans le bouquin. Ce qui différencie, alors il faut bien comprendre, la question, c'est mais pourquoi ils ne viennent pas, etc. Qu'est-ce qui différencie les élèves issus des familles itinérantes et de voyageurs ? Donc, peut-être qu'on va les appeler les EFIV, ou les élèves, enfin, on les appelle souvent les EFIV. Donc, c'est enfants de familles itinérantes et de voyageurs. Qu'est-ce qui différencie donc ces élèves-là des autres ? Alors, nous, on dit, ben, c'est parce qu'ils voyagent. En fait, non. C'est leur culture et leur valeur. Et avant même le fait qu'ils voyagent. Et en fait, ce n'est pas seulement ça, c'est le fait qu'ils aient envie d'avoir une culture qui est différente de la nôtre. Alors, il faut quand même que je surveille l'heure, parce que je peux vous raconter des tas de choses, mais là, je pense que si je vous raconte tout, on ne va pas aller bien. Donc, voilà, donc je ne peux pas tout vous raconter, des anecdotes. Mais en tout cas, pour eux, c'est très, très important de respecter ces valeurs-là. Alors, c'est quoi les valeurs ? J'ai essayé de faire un petit relevé. Tout ce que vous voyez là, c'est en gros, c'est plus important que l'école. Alors, la liberté. Nous, on a liberté, égalité, fraternité. D'un point de vue philosophique, on sait ce que c'est. D'un point de vue social aussi. Hein. Mais pour eux, la liberté, c'est vraiment très important. Quoi. C'est ancré en eux. Et c'est pour ça qu'ils n'hésitent pas à casser un mur s'ils veulent rentrer dans une propriété. Quoi. Pour eux, ce n'est pas grave. Voilà, ça, c'est leur liberté. Donc, la liberté, avec quelquefois, ils font des choses qu'ils ne devraient pas. Mais voilà, pour eux, c'est très important. C'est pour ça qu'aussi qu'ils ne sont pas salariés, par exemple, parce qu'ils ont du mal à avoir un chef au-dessus d'eux. Et puis, à se coordonner, être obligé d'être là, etc. Deuxième chose, leur langage. Alors, eux, ils disent leur parlement. Hein, c'est un peu un mot manouche, quoi. Nous, notre parlement. Voilà. Enfin bon, vous n'êtes pas obligé de parler comme ça. Enfin, dernièrement, j'ai utilisé le mot de parlement avec des gens et puis voilà, ils l'ont repris à leur compte. Pour eux, c'était bien le mot. Donc en fait, ils ont une façon de parler qui les distingue des autres. La troisième chose, c'est leur attachement à la tradition de la familiale. La tradition familiale, c'est la famille, c'est le clan familial. C'est quand un oncle est malade à Lyon, ben on accroche la caravane et on y va, quoi. On va à l'hôpital et on y reste là-bas. Nous, c'est pas souvent qu'on le fait, quoi. Enfin, je vois pas beaucoup le faire chez nous, quoi. Leur fidélité à leur histoire. Alors, l'histoire, c'est l'histoire de la famille, mais l'histoire aussi des manouches, des yéniches, parce qu'on va, peut-être parler un peu de ces différentes formes de gens de voyage. Et puis, notamment, la discrimination. Alors, la discrimination, pour moi, je l'ai mis à ce niveau-là, mais quelquefois, pour moi, c'est la première marque. Alors, c'est quoi la discrimination? Je vais donner quelques exemples. C'est en 1945, les camps de concentration ont été libérés en Allemagne. Et en France, il y avait aussi enfermés par des policiers français, enfermés dans des camps en France, donc à Montreuil-Bellay notamment, et puis dans un deuxième dont j'ai plus le nom. Il y a eu aussi les tziganes, les gitans et autres manouches enfermés dans des camps, mais eux n'ont été libérés qu'en 1947. Alors, ce n'est que tout récemment qu'un certain porte-parole qui avait vécu ça, qui s'appelle Monsieur Gurem, vient de décéder il y a quelques mois. Et donc, en fait, pour eux, c'est une histoire récente. Alors, ils n'en parlent pas. Moi, ils n'en parlent jamais. Ils n'en parlent pas, sauf quand on discute avec eux de ça. Mais pour eux, c'est là. Alors, autre exemple, il y a un maire qui, il y a quelques années, a dit « Hitler n'en a pas tué assez ». Vous voyez ? Ça non plus, on n'en parle pas, ils n'en parlent pas. Mais ils le savent. Alors, plus récemment, je vais donner un autre exemple. Et puis, après, vous pourrez broder à l'infini là-dessus. Enfin, peut-être pas à l'infini, mais enfin, beaucoup en tout cas. Et ça, c'est mon partenaire, là, mon jumeau de l'association, donc François Golewski, là, qui a géré cette histoire-là. Mais il y a eu des gens qui étaient plus ou moins bien stationnés sur une voie de Montigny. Et ils ont eu des séries de contraventions, mais d'une façon incroyable, quoi. Donc les gens, les gendarmes, enfin les policiers, je pense que c'est la police municipale, est venu, leur a mis une série de contraventions parce qu'ils ont trouvé qu'ils étaient mal garés. Et puis après, il y en a qui sont revenus un quart d'heure plus tard, ils ont remis une autre série de contraventions. Et puis après, une demi-heure plus tard, ils ont remis une autre série de contraventions. Voilà. Mais tout ça, c'est 135 pour la caravane, 135 pour le camion, enfin, ou 175 peut-être d'ailleurs. Enfin, c'est des sommes considérables, considérables, qui ne peuvent que les mettre dans la pauvreté. Et ça, c'est de la discrimination. Parce que ça, ce qui est arrivé là, pas à une personne de nous, ça s'est arrivé. Il y a un autre exemple, à Fontenelle-Fleury, pour ne pas le citer. La mairie a dit non à une famille du voyage pour habiter sur un terrain. Et puis, fait aussi, même chose, on voit ces gendarmes pour noter qu'il y a toujours un petit chalet, il y a toujours la caravane. Voilà, et puis, voilà. Donc, et puis, hop, ils mettent une prune. Mais à côté, il y a d'autres personnes qui sont dégagées, on leur dit rien. Voilà. Moi, si je m'installe, on dira rien. Surtout si je suis investi dans la mairie, si je suis investi, je ne sais pas quoi, dans les associations, etc. On dira rien. Mais eux, si. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, nous, on va regarder avec notre avocat comment montrer cette discrimination. L'objet, ce n'est pas de faire une analyse politique tout de suite de cette discrimination, mais c'est pour vous savoir ce qui se passe, que chacun des gens de voyage sait cette discrimination-là. Et il sait aussi que si un travailleur veut travailler puis met des tracts pour faire de l'élagage dans les jardins, s'il commence à dire qu'il est voyageur, il ne sera pas accepté. Donc, il ne le dit pas. Et si un enfant de voyage fait venir un enfant de l'école sur l'aire d'accueil, par gentillesse, ben voilà, après tout le monde en parlera et il sera refusé dans l'école, quoi. Il sera mal vu dans l'école. Donc c'est ça la discrimination. Donc c'est très prégnant en fait. Voilà, la famille, j'en ai parlé un peu. La religion, donc ils sont essentiellement chrétiens, avec deux variations. Il y en a des catholiques et puis il y en a des évangéliques. c'est des gens qui se regardent un peu en chien de faïence parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'entente entre les deux. Quand il y a un couple qui est moitié catholique et puis moitié évangélique, ça devient très compliqué l'ambiance à la maison, sauf si les gens sont vraiment très, très souples. Mais sinon, c'est vraiment difficile, quoi. Voilà. Donc, il y a difficilement un dialogue là-dessus. Voilà, c'est difficile. Et en tout cas, ils le sont. Et puis après, il y a quelques personnes qui ne sont pas religieuses. Bon, ça existe aussi. Et puis l'ouvrage manuel, c'est-à-dire en fait le fait de pouvoir travailler de ses propres mains. Voilà, ça, c'est le fait qu'on est bien. À mon avis, je vais beaucoup trop lentement, mais non, peut-être pas, on va voir. Voilà, alors l'école, voilà, ça c'est la culture. Je pourrais dire aussi que j'ai cité, il y a des manouches, il y a des yéniches, il y a le mot tzigane. Tzigane, c'est un nom générique, on va dire ça comme ça. Gitan, c'est à la fois un nom générique, donc quand on dit ah, ce sont les gitans, ce n'est pas un nom méchant. Romanichel, ça c'est un nom pas utilisé. Voilà, les gitans, oui, ça va. Les tziganes aussi. Les gitans, ce sont plutôt des gens qui viennent du sud, de l'Espagne. Moi, je connais des gitans à Paris qui ont une culture extrêmement... Enfin, il y a beaucoup de pudeur, il y a voilà, extrêmement marqué, une culture gitane. Donc, non seulement ils sont gitans d'une façon générale, quoi, mais en fait, ils ont la culture gitane voilà, qui est bien spécifique. Nous, en général, ici, ce sont des manouches sur les aires d'accueil et plutôt tendance yéniche sur les aires illicites. Voilà. Parce que, voilà. Donc, c'est des gens un peu différents. Les manouches, ils travaillent voilà, pour vivre. Donc, quand ils n'ont pas besoin d'argent, ben, ils ne travaillent pas. C'est moins important. Et puis, les yéniches, ils sont un peu plus comme des Allemands ou des Alsaciens. Quoi. Ça fait un peu ça. Je ne rentrerai pas plus. Là, je suis pas. Qu'est-ce qu'il y a? On a passé là un slide. Là. Alors, Alexandre. Encore au-dessus? Non. Alexandre?
Alors, oui. On était. Non, on est allé trop loin, peut-être. C'était celui-là. Hop. Ben non, c'est pas celui-là.
Voilà, encore un. Encore un avant. C'était voilà, celui-là. Merci. C'est pas ça. Encore un avant.
Ah, encore avant ? Il me semblait qu'on en était là.
Oui. Non, c'était là. C'était là. Okay. Voilà, donc l'école, c'est bien, mais... l'école, c'est bien, mais c'est les petits. Donc les petits, les grands, eux, ils travaillent. Donc quand un garçon veut s'affirmer, donc il va travailler avec son père, et donc il ne va plus à l'école. S'il n'a plus envie d'être avec les petits, il quitte l'école. Donc ça, c'est dans leur mentalité. Les filles aussi, mais les filles voilà, acceptent plus d'être à l'école quand même. En plus, les parents n'aiment pas beaucoup les collèges, l'école, surtout le collège en fait, parce qu'elle pervertit l'éducation. Et puis surtout, en fait, ils voient bien que les enfants commencent à prendre les mauvais plis de la culture environnante. Quoi. Et donc, ils n'aiment pas beaucoup. Donc, finalement, enfants comme parents, il y en a beaucoup qui ne veulent pas aller au collège. Leur mode d'apprentissage, et ça, ça commence à rentrer dans ce que vous faites, c'est à l'école, et vous allez vous reconnaître, on parle beaucoup de raisonnement, du dialogue. Hein, on discute pour savoir voilà, si on a le droit, comment ça marche, etc. Donc, on apprend dans les livres, on recherche, on discute, il y a voilà, les avantages, les inconvénients. Bon. Et puis après, derrière, hop, on décline ça en cas pratique. On fait des maths et puis ensuite on décline ça dans la physique. Quoi. Et puis, voilà, chez eux, chez les voyageurs, pas du tout. Tout ça, tous ces raisonnements spéculatifs, c'est pas du tout leur truc. C'est, on observe le travail des parents, c'est très concret. Et puis après, ils font. Mais ils font, et il y a des exemples que vous lirez dans les docs que je vous ai envoyés. Par exemple, il y a quelqu'un qui dit, ben moi, mon fils, il a, je sais pas quoi, je crois 11 ans, un truc comme ça, et il sait démonter et remonter une roue de voiture. Voilà. Moi, je ne connais personne parmi les enfants que je connais qui sait démonter et remonter une roue de voiture. Mais eux, oui, ça ne leur pose pas de problème. Même chose pour monter un mur, et ils sauront faire en regardant leur père, etc. Ils sauront faire. Ils ne sont pas intéressés du tout à réussir à l'école. Donc nous, on aimerait bien les intéresser, parce que finalement, pour nous, dans notre culture, c'est quand même une motivation d'avoir le métier qu'on souhaite. Ce n'est pas forcément le grand métier qui gagne beaucoup, hein, ce n'est pas ça. Mais le métier qu'on souhaite, voilà. On a quand même un peu le bac pratiquement tous en ligne de mire et en étape. Alors eux, le bac, c'est comme si je disais bac plus 20 pour nous, quoi. Donc, ça ne les intéresse pas d'être. Ils ne sont pas là pour faire comme un gadget, ils ne sont pas là pour être avocat ou médecin, pas du tout. Ça ne les intéresse pas. Et donc, leur motivation est faible pour aller à l'école. Et puis, surtout, ça passe après tout. Alors, voilà des choses. Par exemple, pour nous, la rentrée, c'est important. La rentrée des classes est importante. C'est là où on va avoir la liste des profs, les fournitures, on connaît les élèves, voilà, et on replie les fiches. Bon. Bah eux, bah non, s'ils doivent rentrer en octobre ou en novembre, ils rentreront en octobre ou en novembre. Voilà. Nous, si quelqu'un a mal au ventre, bah si, tu vas à l'école, mon petit, quand même. Et puis, voilà, bah eux, non, s'ils ont mal au ventre, bah ils restent. Et puis, le jour de l'anniversaire, bah on ne va pas aller, nous, chez Disney. Tandis que moi, j'ai vu des enfants aller chez Disney le jour de l'anniversaire et le jour de la classe, quoi. Donc, en fait, la motivation est quand même beaucoup plus faible. Et donc, c'est une grande difficulté parce que nous, il va falloir qu'on remettre en avant cette motivation. Et donc, on va en parler parce qu'on va changer de transparent. Donc, ce qu'on propose de faire, nous, alors, premièrement, on ne va pas faire du miracle, mais vous voyez que la situation est quand même extraordinairement complexe. Il ne faut pas se cacher la difficulté de ça. Et si on se la cache, si on dit « moi, je vais réussir à avoir des résultats super », eh bien, on va se planter. Et donc, notre proposition de démarche, c'est de se dire « c'est tellement difficile qu'en fait, il faut qu'on s'y mette tous et de façon coordonnée ». Je dois dire, je remercie beaucoup l'usine à chapeau de m'avoir honoré en venant présenter ça, mais je dois dire que si je suis aussi là, parce que moi, je travaille sur les Yvelines, et donc, c'est vrai que, comme François aussi, mais on travaille sur les usines, on a beaucoup de choses à voir. Mais ici, à l'usine à chapeau, vous avez une démarche qui est quand même très proactive. Et qu'on, voilà, je voudrais l'honorer et je trouve que c'est vraiment bien, quoi. Donc, moi, j'apprécie beaucoup, vraiment beaucoup. Alors, il y a une complexité et qui oblige en fait à travailler ensemble, acteurs publics, professionnels, associatifs, pour que ça marche. La première chose, c'est la motivation. Et on n'est pas encore clair même là-dessus. Moi, quand je vais voir un enfant, je vais lui dire, garçon ou fille, je vais lui dire, je ne sais pas quoi, bah, tiens, une fille, voilà, il faut que tu apprennes à lire, parce que après tu auras un mari, il faudra que tu lui fasses peut-être les papiers, voilà. Et puis, il faudra que tu fasses aussi les papiers pour tes parents, pour les retraites, etc. Donc, il faut que tu apprennes à lire. Et puis, il peut y avoir aussi pour lire la Bible. Si tu veux lire la Bible, ben, voilà, pour pas que quelqu'un te la lise et puis la lise de travers. Mais si tu veux savoir lire, il faut bien savoir lire. Voilà. Mais ça, c'est un peu de la bidouille. C'est ma petite bidouille à moi. Mais je pense qu'il manque, et ce que je voudrais, la première chose que j'aimerais bien faire, si éventuellement l'usine à chapeau voulait le faire, c'est avoir un petit argumentaire très court, et un truc béton, mais très court et très, très sensible, quoi. Pourquoi l'école est obligatoire? Pourquoi elle est obligatoire en France? Quels avantages vous avez en retiré concrètement? Et quels risques il y a à ne pas respecter la loi? Voilà. Pour que ce soit une motivation et qu'ils comprennent. Et ça, moi, je n'ai rien trouvé. Je n'ai même pas été capable de le faire, pour vous dire. Mais je pense que ça, c'est la première chose, pour qu'on ait un langage. Et puis après, j'ai mis une liste. Alors, ce n'est pas une liste à la Prévert, mais de tous les gens qui doivent agir. Et on en a cité déjà quelques-uns, déjà. DAZEN, c'est la direction de l'académie, qui doit porter une démarche pour renforcer la scolarisation des gens de voyage, parce qu'on peut vraiment dire que le directeur de l'académie, qui a 350 000 chats à fouetter, hein, puis en ce moment, avec tout ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, évidemment, c'est difficile. Mais, en tout cas, c'est son rôle. Et donc, le CASNAV, merci Ronald, qui a travaillé l'année dernière, donc a un rôle particulièrement à jouer là-dedans. Mais évidemment, Ronald, il travaillait, si j'ai bien compris, à 10% de ton temps, c'est ça, hein? Bon, donc, voilà, c'est pas suffisant.
Pour être tout à fait honnête, c'est vrai, c'est même le parent pauvre du CASNAV, c'est-à-dire que le plus important, c'était les élèves allophones qui arrivent de l'étranger parce qu'il y a un enjeu politique derrière.
Ah oui.
Moi, si j'avais souhaité ne pas du tout travailler autour de cette de ce public, on m'aurait rien demandé. Donc, je le faisais en plus parce que ça me semblait essentiel. Et pour l'instant, il y a très peu au total. Il y a 7 ou 8 enseignants qui sont dédiés sur toutes les Yvelines aux enfants du voyage. Alors qu'on sait très bien, si on creuse un peu, qu'il y a plus que ça comme besoin. Mais bon, voilà.
Alors, après, les EPCI. Alors, EPCI, ce sont tout ce qui est communauté de communes. Donc, chez vous, c'est la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, par exemple. Et puis, les mairies. Parce que les mairies, ben, elles sont les propriétaires des écoles. Et donc, elles ont quelque chose à faire pour être attentives aux personnes qui sont sur leur territoire. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire, qu'elles ne doivent pas mollir, et elles doivent être engageantes, encourageantes à aller à ce que les enfants aillent à l'école. Ce qui n'est pas vraiment le cas aujourd'hui, parce qu'il y a des écoles qui refusent les gens de voyage. Et donc, ça ne va pas du tout. Hein, ça ne va évidemment pas. Alors après, l'autre chose, ben, c'est les écoles, les maîtres d'école, qui, depuis tout à l'heure, Ronald vient de le dire, hein, ben, nous, on constate qu'il n'y a personne. Et donc c'est bien embêtant parce que, enfin, personne dans les UPS, hein, unités pédagogiques spécifiques, qui sont des unités un peu particulières qui sont dédiées aux gens du voyage, enfin notamment aux gens de voyage, et qui sont un peu un intermédiaire entre rien du tout et puis l'école, quoi. Et les parents aiment plutôt bien ça parce que finalement les enfants se retrouvent ensemble. Et puis pendant ce temps-là, ils n'encombrent pas l'aire d'accueil et ça se passe plutôt bien. Mais la formation est quand même plutôt médiocre, et puis l'assiduité aussi. Donc là, il y a des choses à faire. Les assistants sociaux, pourquoi ? Parce qu'il y a aussi des personnes qui gèrent toute l'insertion professionnelle de la famille, hein, dans le cadre du RSA notamment, et puis qui peuvent poser des questions aussi là-dessus, et qui peuvent aussi dire insertion professionnelle, d'accord ? Enfin, insertion, hein, pour le RSA, mais aussi insertion de la famille, et donc veiller à l'école. Et je sais qu'il y a dans d'autres départements, il y a ce travail-là qui est fait et qu'il faut aussi faire. Voilà, les gestionnaires des aires d'accueil, sur les 2 aires d'accueil, il y a des gestionnaires. Il y en a 1 ou 2 d'ailleurs. Il y en a 2 ? Je crois qu'il y en a 2.
Un seul chez nous. Enfin, c'est le même pour Rambouillet.
C'est le même pour les 2. D'accord. Ah oui. Bon, oui, c'est quelquefois un pour plusieurs, mais voilà. Donc en tout cas, les gestionnaires des aires d'accueil savent. Et puis ils peuvent dire aussi aux parents, tiens, pourquoi ils ne sont pas à l'école ? Voilà. Mais si c'est le gestionnaire tout seul, il va vite être limité. Mais si c'est les gestionnaires plus tout le monde, alors j'ai mis camion école de Passy-Buzenval qui passe sur certaines aires, mais je ne suis pas sûr qu'il passe sur les 2 aires de Rambouillet.
Non, il n'y passe pas. Alors. Non, les parents voudraient bien pour le coup, mais le camion ne passe pas.
Oui, ouais, leur mission première,
c'est une solution de facilité, en fait, d'avoir le camion école qui passe. Mais le camion école, il passe, et puis on a une demi-journée de cours toutes les semaines, et c'est pas comme ça qu'on peut travailler, quoi. Enfin, c'est très beau ce camion école, et puis moi j'aime beaucoup l'équipe qui s'en occupe, hein. Il y a une certaine Priscille Van Tran qui est vraiment quelqu'un de vraiment très bien, très sympa, très très sympa, mais c'est quand même au total limité. Et puis après, il y a les réseaux associatifs qui sont proches des gens du voyage. Donc là, j'en ai cité 2, bien sûr, que vous connaissez, mais il y en a peut-être sans doute 2, sans doute d'autres, mais tous, en fait, doivent se dire, quand je vois un enfant, pourquoi il n'est pas à l'école ? Voilà, pourquoi il n'est pas à l'école, quoi. Et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors, on propose qu'il y ait une démarche d'ensemble pour tout ça qui soit piloté par le directeur de l'académie. Après, évidemment, ce n'est pas nous qui allons donner des ordres ou quoi que ce soit. Mais ceci dit, on a parlé de cette question-là au nouveau préfet délégué, qui s'appelle le préfet délégué à l'égalité des chances et qui prend en charge notamment la question des gens de voyage. Et on lui a parlé de ce projet-là. Et puis, on va voir si ça peut avancer aussi. Voilà. Après, je parle, se donner des indicateurs du succès, etc., pour montrer que ça marche. Voilà. Il y a d'autres gens qui ont fait des belles choses. Là, on a cité ce qui se passe dans le Morbihan, mais je citerai tout à l'heure sur l'illettrisme des choses intéressantes qui ont été faites aussi par... sur Angers. Voilà, donc il y a quand même des gens qui agissent de façon intelligente, ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Mais voilà, mais je pense qu'il y a de l'intelligence dans les Yvelines, donc on y arrivera à faire quelque chose qui soit une vraie démarche. évidemment, qui ne concerne pas seulement votre territoire, ça concerne toutes les Yvelines, bien sûr. Voilà ce qu'on propose. Et puis, voilà, encore un petit effort pour l'illettrisme.
Juste au niveau du temps, Étienne, là, il est un petit peu plus de 19h. Il est 19h15, donc je ne sais pas combien vous voulez qu'on se donne de temps encore.
Je vais prendre le dernier. Non, je vais prendre ça et ensuite un autre. Mais je vais être court. Je vais être court. Mais je voudrais le faire quand même. L'illettrisme, c'est un sujet. Ce n'est pas nous qui l'avons proposé, ce sujet-là. Et assez curieusement, c'est donc la direction de la cohésion sociale qui nous a demandé de mettre en place un travail pour sortir de l'illettrisme. Voilà, c'est une question difficile. Je vais passer une minute ou deux seulement sur ce transport-là. C'est une question difficile. Parce que sortir de l'illettrisme, faut qu'il y ait une motivation personnelle de sortir de l'illettrisme. Or, ils y sont rentrés parce que justement, ils n'avaient pas la motivation d'apprendre à l'école. Et voilà. En plus, nous, on voit les gens qui disent ah ben moi, je ne sais pas bien écrire, je ne sais pas bien lire, etc. Ils ne savent pas. Voilà. Donc, ça, il y en a pas mal. Il y en a quelques-uns qui veulent sortir. Moi, j'ai vu sur l'aire de. Alors, je ne sais plus laquelle c'est, mais je ne sais plus si c'est Jouan-Josas ou bien Guyancourt, mais peu importe. Sur une autre aire, en gros, du côté de Saint-Quentin, un homme qui a demandé à une femme qui faisait du soutien scolaire, qui lui a demandé de l'aider dans l'illettrisme. Voilà. Alors, mais c'est l'exception exceptionnelle, ça. Voilà. Donc, en fait, bon, c'est assez difficile. L'illettrisme, on le considère surtout à partir de 16 ans, à partir de l'école, parce qu'avant, normalement, c'est à l'école de le traiter. Donc, j'ai mis 16-18, parce que c'est avant qu'on rentre dans les... Zut, j'ai oublié comment ça s'appelle, ceux qui s'occupent des 18-25 ans, là. Qu'est-ce qui c'est ça, là
Mission locale.
Mission locale, voilà, merci. Avant la mission locale. Donc, avant la mission locale, après, c'est la mission locale, et puis après, c'est le RSA. Quoi. C'est pour ça qu'il y a des écarts, des tranches d'âge un peu différentes. Jusqu'à 35 ans, mais on pourrait aller au-delà. Mais en fait, on s'aperçoit que l'illettrisme se traite quand on est jeune et moins quand on est vieux. Donc voilà, donc on va y travailler. Là, c'est quelques pistes, simplement. Voilà. Et là aussi, on a besoin de coopération à mettre en place, des coopérations très importantes. Il y a des bénévoles pour les accompagner. Il y a des financements mobilisés. Et puis, voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire sur l'illettrisme. On n'est pas encore organisé là-dessus, mais quand on aura fait cette analyse de l'existant, cette audite, je pense qu'on sera prêt à aller plus loin. Enfin, voilà. Donc, il y aura aussi des choses certainement qui seront à imaginer chez vous à l'usine à chapeau. Et je passe le dernier transparent, qui est le suivant. Ça s'appelle « C'est sur la vie professionnelle ». Alors, je n'ai pas envie de parler de la vie professionnelle, simplement de dire que voilà, les métiers sont très traditionnels, en général quand même d'une valeur ajoutée qui est moyenne. Hein. Il y a des gens qui arrivent à bien vivre en ce moment. Moi, je connais des gens qui travaillent et qui travaillent bien et qui, voilà, qui gagnent bien leur argent. Mais c'est l'exception. En général, quand même, ils vivotent et puis ils sont en difficulté. J'ai gardé juste ce transparent. Ce sera le seul, mais simplement pour voir les contextes et les freins à la professionnalisation des gens de voyage. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens ont du mal à travailler, d'une façon générale? Il y a les préjugés et la méfiance des clients potentiels. Voilà. Vous voyez un gars, vous dites, il n'est pas très très clair, bon, il a un drôle de parlement, une drôle de façon de parler. Voilà, vous êtes un peu méfiant, et puis vous dites, oh, il n'y a pas d'adresse chez lui, il y a juste un numéro de téléphone. Voilà, vous vous méfiez. Donc, il y a de la méfiance. L'itinérance, autre gêne. Le fait qu'en fait, il travaille, mais qu'après, l'été prochain, il sera ailleurs. Et puis, l'année prochaine, ce n'est pas sûr qu'il soit dans les Yvelines, peut-être qu'il sera dans l'Essonne. Et donc, ça ne facilite pas le renouvellement du travail, ni, je dirais, le service après-vente. L'analphabétisme et l'illettrisme. C'est-à-dire le fait qu'il ne sache pas lire, qu'il ne sache pas, voilà. Donc, il ne sache pas non plus rédiger. Ils sont, et eux-mêmes, ils se sentent un peu en faute. Voilà, ils ont des stratégies de contournement, quoi, des tactiques de contournement, mais ils ne savent pas bien. Donc, finalement, ils ne sont pas très à l'aise par rapport à quelqu'un qui est très affirmatif et qui est clair sur ses papiers. Voilà, celui qui sait lire, il aura un avantage. La dématérialisation des démarches administratives, c'est aussi très important. Eux, s'ils ne savent pas lire, ben, ils ne savent pas non plus se repérer vraiment sur Internet. Et il y a plein de démarches à faire sur Internet. Voilà, plein. Je passe parce que l'évolution des marchés, donc les choses évoluent, il y a des produits nouveaux qui arrivent, des produits. Voilà. Eux, si c'est leur, s'ils tiennent leurs compétences de leur père, P-E-R-E, hein, finalement, ils évolueront pas. Donc, pour connaître les nouveaux produits, faut être ouvert, faut avoir envie de se former, faut avoir envie de lire sur Internet ce qui se passe. Voilà. Et c'est difficile pour eux de savoir ça. Les contraintes réglementaires, c'est par exemple pour être peintre, il faut être enregistré au registre des métiers comme peintre. Et donc, celui qui veut être peintre, il faut qu'il soit qualifié et qu'il montre, qu'il prouve sa qualification de peintre. Et évidemment, pour eux, c'est difficile parce qu'il faut le montrer soit en ayant des diplômes, soit en ayant travaillé un certain temps dans les entreprises comme peintre. Donc, c'est très, très difficile. Et sinon, ils seront hommes toutes mains. Voilà. Bon. Mais c'est bien, on peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas pareil. L'impact négatif en cas d'augmentation du chiffre d'affaires, ça, c'est une chose qui ne touche pas au savoir, mais un petit peu quand même, c'est que quand il y a de l'augmentation du chiffre d'affaires, donc il y a des revenus, et du coup, le RSA baisse, et pour eux, c'est très compliqué à gérer. Voilà. Donc, en fait, ils ont intérêt à pas trop travailler. Quoi. Mais voilà, ça, c'est plus professionnel, ça touche un peu moins notre sujet. Voilà. Et puis, les limites des compétences techniques, je ne vais pas en parler, vous imaginez bien.